Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffon. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui fait partie de ces témoignages rares, douloureux et nécessaires. Il traite de la question, encore très taboue, des violences dans les couples lesbiens. Car, oh surprise, l'homosexualité ne préserve ni des insultes, ni des coups, ni des humiliations ou de l'emprise. Cet enregistrement peut donc être difficile à écouter, mais il est aussi plein d'humanité et de foi dans l'avenir, dans l'amour. Vous entendrez Hélène raconter comment sa partenaire a installé son emprise en essayant de la couper de son environnement, les reproches incessants et injustifiés qu'elle lui a faits, puis la nuit de violence et d'horreur qui a obligé Hélène à mettre fin à la relation.
Après cela, elle a encore subi plus d'un an de harcèlement. Ceci est la deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas écouté le premier, je vous conseille de commencer par là. Bonne écoute.
J'ai appris à la découvrir dans une troisième phase. Mais le harcèlement, ouais, il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, quoi. Parce qu'ils ont une plainte et continuent à essayer de détruire autrui. Alors après, c'est vrai que cette plainte, moi je voulais juste déposer une main courante, je voulais pas qu'elle soit inquiétée plus que ça. Je dis, j'ai fait parce que pour m'apaiser, par devoir, au cas où d'autres faits hétéro-agressifs se reproduiraient sur d'autres femmes. Mais voilà, c'était un peu couru qu'elle aurait rien, quoi, vu l'ampleur des faits de violence qui sont déjà pas réglés. On sait comment la justice peut, avec le peu de moyens, et donc ça c'était évident que elle serait pas ennuyée, qu'elle aurait peut-être juste un rappel à la loi, mais et comme la plainte a été classée sans suite.
Du coup, t'as porté plainte ou t'as juste déposé
une main courante ? J'ai voulu déposer une main courante et ils m'ont dit non, on prend plus de main courante vu les cas de gravissimes qu'il y a en matière de violence conjugale ou de féminicide. Voilà, c'était les ordres de la justice étaient soit de ne rien prendre, soit de porter plainte. Et ils m'ont dit qu'il y avait matière à porter plainte. Après, ils m'ont laissé libre, mais du coup, ça a été une plainte qui a été classée sans suite pour défaut de matérialité. Parce qu'elle a nié tous les faits et qu'elle est très forte en bagou. Très très forte. Ouais. Souvent, ses personnalités sont assez brillantes. C'est une femme qui était très oratrice, qui pouvait retourner un auditoire, qui avait une forme de rationalité, mais des fois, du rationnel. Des arguties, quoi, moi je dis. Je pense. Et donc, voilà, il y avait. Comme elle a nié toute contrainte et elle a été obligée d'avouer, de reconnaître qu'elle s'était blessée le doigt, c'est ce que j'en ai su par une personne qui m'a donné aussi qui a accepté de me donner quelques explications, voilà, par téléphone, une personne de tribunal. Donc elle a dit qu'elle s'était blessée en partie à cause de la victime. Donc voilà, il n'y avait rien à en tirer. Après, si elle m'avait demandé pardon, et peut-être que l'histoire aurait repris pour se recasser la figure 3 mois plus tard, mais elle n'a jamais été dans cette posture de reconnaître, de me demander pardon. Au contraire, elle est partie dans une sorte de furie cérébrale et qui fait qu'elle m'a écrit sans surmoi. Voilà, c'était peut-être 500 mails avec souvent une longueur de format A4, quoi. Alors, j'étais...
Deux par jour, quoi.
C'était par série. Par Pendant 15 jours, j'avais rien, puis j'en avais 30. Chose comme ça, quoi. Donc, j'ai choisi de les classer parce qu'il fallait pas les garder quand même.
Et ça s'est arrêté un jour, tout seul, ou ça continue encore ou...
Alors, ça s'est arrêté depuis 2 mois environ. Ça s'est arrêté depuis 2 mois. Après un an et demi. Et là, je crois que je crois qu'elle a compris que l'histoire était close, que je retournerai pas avec elle et que je crois qu'elle a fait le tour de tout ce qu'elle avait pu dire, fait le tour de chaque souvenir, chaque reproche, monté en épingle, trituré dans tous les sens et il fallait qu'elle reprenne son souffle elle aussi.
Toi, tu répondais ou tu répondais
pas? Très peu, mais j'ai répondu quand elle me dit la plainte est classée sans suite, je vais donc pouvoir déposer plainte contre toi pour diffamation calomnieuse. Évidemment, donc là, j'ai répondu car je suis innocente. Donc, j'avais pas pu m'empêcher de lui dire classement sans suite ne veut pas dire innocence. Et c'est dommage parce que tes futures femmes ont perdu le droit d'être légalement prévenues. Voilà, j'ai dû répondre quelque chose comme ça et lui dire, en gros, lâche-moi les baskets maintenant. Et elle reprenait d'ailleurs le terme, mais non, toi, lâche-moi les baskets dans son mail. C'était. Et puis, là, une façon de parler toujours très désobligeante, même quand elle voulait reprendre le lien. J'en ai marre d'être gentille, dis-moi quand et où pouvons-nous revoir. J'en ai un peu marre d'être gentille une fois qu'elle m'écrit ça.
Wow.
Et elle a, je crois qu'elle avait joué sa dernière cartouche en sonnant chez moi de façon improviste il y a 2 mois. Et je n'étais pas là, heureusement, et une de mes amies était là. Et du coup, m'a prévenue de pas... Je promenais mon chien, de ne pas rentrer tout de suite. Et voyant qu'elle restait, elle faisait... Voilà. Elle restait au bas de l'immeuble, elle est descendue, la sermonnée, la raccompagnée à son véhicule. Bon, c'est une femme, une amie qui a beaucoup de réflexions, qui était au courant de mon histoire. Qui avait pu m'aider, enfin, on avait pu en parler, qui connaissait la problématique. Donc, un peu sermonné. Mon ex-compagne a dû l'insulter un peu, et puis elle a pu reprendre quand même, quitter les lieux. Mais après, j'ai eu une trentaine de mails, je crois, très très désobligeants. Où elle se situait d'ailleurs au présent en me disant « Ah oui, je comprends, c'est avec cette personne que tu me trompes depuis 6 mois. » J'avais donc eu beaucoup de noms sur des femmes avec qui j'étais censée la tromper. Mais là, c'était la personne qui l'avait accueillie. Donc voilà, beaucoup de propos désobligeants sur le physique de cette personne, sur son âge, sur... Et donc c'était moi, à travers les personnes qu'elle veut avilir, quoi. Donc c'était, tu serais capable de coucher avec n'importe quelle personne, même si ton voisin venait te emprunter de la farine, t'aurais même pas besoin de te chauffer avec une vidéo porno pour lui sauter dessus, j'avais ce genre de message, quoi.
T'as eu une vie sexuelle très intense et tu n'es même pas au courant.
Non, voilà.
Quelle horreur.
Et puis pour... mon ami a été blessé aussi, mais... Elle savait avec qui elle avait affaire, mais... Et cette dernière anecdote, le fait qu'elle voit que ce soit une femme qui lui réponde à l'interphone, une femme qui descende de mon appartement pour lui répondre. Je pense que ça a pu faire des clics parce qu'elle s'est dit bah oui, elle peut continuer sa vie, quoi. Quelque chose du genre. Et puis, toute façon, si c'est avec ça qu'elle me trompe, voilà, elle a dû se dire enfin, des choses un peu délirantes, quoi. Mais ça a acté le fait que, voilà, que j'avais ma vie, que je pouvais confier mes clés à une amie, à une amante, peut-être. Enfin, une personne avec qui je pouvais avoir des liens intimes. Voilà, ce qui fait qu'elle a pu m'écrire « Je ne ressens plus rien, rien pour toi », voilà, entre autres paroles sensées, mais avec aussi des propos grossiers, comme je disais. Mais le dernier message, c'était voilà, qu'elle insistait quand même pour repasser, me rendre mes affaires. Donc, j'aurais pu lui dire « Oui, rendre les affaires que tu m'as volées », mais non, je ne voulais pas relancer un sou dans la machine. Donc je lui ai dit je ne souhaite pas récupérer mes affaires. Bonjour, j'ai cité son prénom. Je ne souhaite pas récupérer mes affaires. Je te souhaite une bonne continuation à toi. Voilà. C'était une façon aussi de lui dire ben voilà, au revoir, ne reviens pas. Et puis de lui répondre de façon civilisée, quoi. En souvenir aussi des moments qu'on avait eus, parce que c'est une personne qui a compté pour moi et j'ai encore une sensibilité pour elle, hein, certainement. Mais voilà, je voulais pas lui répondre sur le même ton. Et du coup, elle était dans le mouvement de mail odieux, salve de mail, voilà, une sorte de graphorée numérique. Haineuse, et elle a été prise au dépourvu sans doute par ce mail un peu bienveillant, et du coup elle m'a répondu c'est noté, merci de me l'avoir indiqué, je te souhaite d'être heureuse. On termine sur cette phrase après un an et demi de menaces, d'intimidation, de bluff, de manipulation. Donc je peux me dire que ça va reprendre, que les mails méchants allaient reprendre, mais j'aime mieux me dire que non, qu'on termine là-dessus. Après, j'espère pas la recroiser, parce que je pense pas que je serai bien, et qu'elle serait forcément... Elle sera pas sympathique, forcément, quoi. Enfin, me l'avait dit. Je ne serai pas forcément sympathique et pas forcément violente.
J'aime bien. Super.
Mais ne viens pas ne mets plus un pied dans ma ville, comme si la ville lui appartenait. Ne viens pas et ne viens pas me faire chier en retrouvant une petite amie de ma ville. Voilà, très territorial et en même temps voulant infiltrer entre guillemets les instances dans lesquelles je suis, ne comprenant pas pourquoi elle n'était pas bienvenue. Après avoir insulté des membres de l'association de la ville dans laquelle je vis.
C'est ok, je peux te poser une question. Du coup, il y a trois phases. Il y a la première phase dont tu as peu parlé. La deuxième phase, c'est cette nuit affreuse. Et la troisième phase, c'est le harcèlement, c'est ça ?
Oui.
Et du coup, dans la première phase, si ça ressemble à ce que moi j'ai vécu, il y a dès le début une espèce d'alternance entre des moments absolument incroyables et des trucs atroces. Est-ce que toi aussi c'est ça dont tu peux témoigner ?
Oui, c'est ça. Mais c'est surtout que je pense que j'ai rencontré un moment où j'étais un peu fragile parce que, voilà, en instance de divorce, des choses pas forcément non plus faciles que j'ai pu vivre avant. Je me séparais d'une relation avec une femme, je me remettais d'un chagrin d'amour. Et puis, voilà, on se rencontre, on s'était déjà repéré quelques années avant, mais sans comprendre qu'on pouvait potentiellement se plaire. Et là, elle est vraiment disponible pour moi parce qu'elle est seule depuis longtemps, par choix, je crois. Et elle me fait comprendre qu'elle est attachée à moi. Elle me propose par ses paroles un avenir possible, quoi. Voilà, voir. Ouais, un avenir, voir. Des projets, une relation solide, à long terme, parce que c'était ce qu'elle recherchait. Et ouais, j'ai envie de m'engouffrer dans cet espoir-là, d'autant que je suis peut-être un peu en règlement de compte avec mon ex-conjoint. Tu vois, on essaye un peu chacun de se dire ouais, qu'on continue notre vie, que c'est possible. Parce que voilà, il y avait aussi c'était une époque un peu tendue pour moi par rapport à mon ex-conjoint. Ça s'est bien apaisé, mais c'était un contexte.
Juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu étais en même temps en train de divorcer de ton ex-conjoint et en train de gérer un chagrin amoureux avec une femme, c'est ça?
Oui, parce que avec mon ex-conjoint, on a mis du temps à se séparer, à acter la séparation, à mettre en place le divorce. Il freinait un peu là-dessus. Donc, du coup, on avait pris des modes de vie. On vivait on avait pris du large. On ne vivait plus ensemble. Et moi, j'ai pu découvrir, aller vers ma nouvelle orientation, en fait. Voilà. Mais on était encore attachés l'un à l'autre, on se faisait... C'était une relation un petit peu... Un moment de vie un peu complexe, quoi. Voilà. Un peu compliqué. Ben, je pourrais aussi parler de ça. Mais, par exemple, mon coming out hein, auprès de mes enfants, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon ex-conjoint qui l'a dit aux enfants, quoi. Enfin, c'était un peu par mesquinerie, règlement de compte. Il était... voilà. Ouais, c'était... Il y avait de l'impertinence de sa part. Donc, quoi que les enfants avaient déjà compris, je crois, mais j'aurais voulu pouvoir le dire, quoi. Mais bon, on était chacun déjà sur nos parcours. Et voilà, je suis avec je rencontre cette femme et j'en tombe très vite amoureuse quand même. Une relation très forte avec de très beaux moments, une complicité. Ouais, c'était juste merveilleux. Puis elle avait ce côté un petit peu exubérant, enfin un peu barge quand elle n'était pas dans la psychorigidité, quoi. Donc ça m'emportait, quoi. Elle était un peu passionnata, quoi. Donc je me sentais vraiment bien exister et puis je pense qu'elle m'aimait, mais je sais pas, en fait. Maintenant je sais pas, parce que quand à l'appui des écrits, tout ça, même si j'ai fait des erreurs aussi. Parfois, comme j'étais pas bien, ben je lui demandais des breaks ou je me répondais pas parce que j'en pouvais plus. Ou voilà. Donc elle le vivait mal. Je me sentais mise sous cloche ou j'avais envie de m'échapper d'une façon ou d'une autre. Donc j'appréhendais certains week-ends, donc j'appréhendais les scènes. Et j'aurais peut-être dû mettre mieux les mots. Et... En tous les cas, elle me demandait de régler rapidement le différend entre elle et ma fille. Et moi, je ne pouvais pas changer la donne. Mes enfants sont majeurs, ne voulant plus la voir. Donc je savais que si je continuais mon histoire avec elle, c'était en dehors de l'espace enfant, petit-enfant. Donc c'est très compliqué déjà. Pouvoir... inscrire son histoire d'amour sans en dehors d'une partie de ta vie. Et puis donc voilà, j'avais des reproches sur le fait que je me laissais gérer par ma fille, voilà. C'était partait tout le temps en boucle. Que j'étais pas la boniche de ma fille, qui m'exploitait pour garder mes petites filles, enfin... Des interprétations. Moi, ça me fait partie de mon équilibre, de voir de voir mes enfants, mes petites filles. Et ça, c'est... Mais je pense que à partir du moment où on touche trop à tes enfants verbalement, ça abîme complètement le couple, quoi. Au long cours, c'est impossible, quoi. Et puis, voilà, je pense que ça virait même en fixation. Mais oui, c'était une alternance de beaux moments et de moments où tout faisait problème pour elle. Mais pas que mes enfants, hein. Tout faisait problème. Je pense que j'avais un rôle pour elle, d'exutoire à ses angoisses, ses pensées noires. Voilà, j'étais le réceptacle.
Et comment on se remet ? Enfin, comment tu te remets ?
Ça a été long. Après, j'ai très vite su que la vie continuait, qu'il fallait qu'elle continue. Mais au niveau affectif et sentimental, tout ça, c'est quand même long à oublier. Mais je me suis remise... J'ai apprécié le fait de retrouver de la liberté, retrouver des amis, la liberté d'aller et venir, de refréquenter un peu les filles de l'asso, qui étaient considérées comme des lesbiennes en chaleur, prêtes à me baiser. Enfin, j'entendais ça depuis des mois et des mois, et j'étais plus... J'en riais, quoi, et puis, enfin, intérieurement, et puis on s'est retrouvés, j'ai fait des choses pour l'asso, puis aussi pour avec mes amis de mon passé hétérosexuel que j'ai gardé, d'aller venir pour aller voir mes enfants. Je me suis fait des nouvelles amitiés que j'aurais jamais pu rencontrer en sa présence. J'ai renoué avec un couple de copines que j'aime bien, avec qui je n'avais plus le droit de citer. Voilà. Et puis après, c'est un peu long d'oublier, quoi. On se sent fragile par moments. Il y a eu des moments durs, ouais. Ou des moments où, dans mon cœur, je la pleurais, et je pleurais la facette de la femme que j'aimais, quoi. Et je crois qu'il faut du temps, et puis... Et après... Continuer à sourire à la vie, comme dit. Et c'est aussi important de se dire pourquoi ça m'est arrivé. Ça, je ne veux pas oublier la question et me remettre en cause là-dessus. Pour pas que ça se reproduise. Ça se reproduira pas de la même façon, parce que ce que j'ai vécu, c'est quand même la rencontre d'un personnage, quoi. Avec, d'un petit démon, quoi. Parce qu'il y a les faits, il y a les écrits, il y a la manipulation, il y a la mauvaise foi, mais elle est là-dedans, quoi. Je pense qu'elle est dans sa propre rationalité, quoi. Alors, ça ne pourra pas se reproduire de la même façon. Mais faut quand même bien ouvrir les antennes et savoir... moi, j'ai vu qu'à l'époque où j'ai rencontré, j'étais un peu... fragile, empressée de me retrouver un statut qu'aujourd'hui je n'ai plus envie forcément d'avoir un statut social classique. Enfin, je n'ai pas envie de me définir en couple coûte à n'importe quel prix. J'aime mon autonomie, mon indépendance et j'ai repris goût à ça. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi, quoi. Donc, clairement, je me sens mieux. Et je dirais que je n'ai plus peur d'elle, quoi. Sauf, j'ai pas forcément envie de la recroiser, parce qu'on n'a pas envie de recroiser ces agresseuses, mais il fallait que la peur change de camp. Et je pense que là, elle a eu des réponses aussi d'autrui, qui pour la canaliser et la recadrer, quoi. Parce que là... Il y a des membres de mon association qui sont venus un peu à mon secours, on va dire, parce qu'ils commençaient à menacer aussi d'autres personnes. Voilà, donc elle a été recadrée collégialement, quoi. Il y a eu un moment, un stop à sa toute puissance. Quoi. Après, si elle veut, elle a 6 ans pour porter plainte contre moi, j'ai plus peur de ça, quoi. Plus du tout. Enfin, je pense pas que ça puisse aller loin juridiquement. En même temps, c'était plus pour ma personne, quoi. J'avais peur, en fait. Parce que oui, la justice ne peut pas toujours nous protéger. À un moment donné, oui, effectivement, je me disais jusqu'où elle va aller, quoi. C'était parce qu'il y avait beaucoup de cynisme. Je dirais que toute histoire est expérience et que s'il y a des mauvaises expériences, mais qui peuvent dont on peut tirer un enseignement. Et là, avec tout ce recul et même sans ce recul, mais je peux clairement dire que j'ai été confrontée, enfin que j'ai vécu une relation toxique et que pour moi, elle se caractérisait par ce manque de confiance d'emblée qu'elle projetait sur moi et un manque de respect, même si elle disait que c'était moi qui la respectais pas, enfin voilà, un manque de respect dans les propos et une communication qui était pas saine, quoi. C'est les trois caractéristiques de cette relation que j'ai connue avec cette personne. Et je dirais souvent que j'étais à la merci d'une perversion, parce que c'était pour moi, c'est le fait d'être interpellée de façon par surprise, de façon malveillante. Et elle distillait de la sidération par ses propos. Et du coup, souvent, je savais pas toujours quoi répondre, mais c'était souvent des faits en lien avec mon passé, ma famille, des choses que je lui avais confiées à un moment où je me sentais bien, et qui étaient resservies de façon punitive, quoi. Alors, elle me traitait de perverse narcissique aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, elle a compris que j'avais compris. J'avais un livre sur l'emprise qui m'avait été conseillé par ma psy. Donc, elle a commencé à lire des choses en me piquant le livre, mais incapable de se faire de se lire elle-même. Donc, c'était moi, la perverse narcissique. Plus tard, une fois qu'on se sépare, longtemps après, au moment du phénomène de harcèlement par les réseaux, récemment, là, elle avait vu un téléfilm qui traitait de l'emprise. Et là, elle me réécrit et je la vois venir, quoi. À la fois en voulant me recontacter, enfin essayer de qu'on puisse se revoir, mais en même temps me parlant d'avoir vu ce téléfilm. Et là, elle part en grave forêt et elle m'identifie au protagoniste du téléfilm qui était le manipulateur pervers. Voilà, c'est un peu. Ouais, c'est toujours le même schéma, quoi. Elle renversait sans arrêt les choses. Donc, bon, il n'y a pas trop de. Tout en me disant, me reprochant de ne pas avoir voulu faire un suivi avec un thérapeute conjugal. Voilà, avec les mots assassins, quoi.
Je peux juste interrompre, ça fait deux fois que tu emploies une expression que je connais pas, tu dis gras fourré, c'est ça?
Ouais, gras fourré, c'est comme tu écris, t'as des gens qui ont besoin d'écrire, d'écrire, d'écrire. et de façon un petit peu névrotique, quoi. Et on peut appeler ça une graphorée, dans le sens où c'est pas une façon d'écrire de très équilibrée. Bah, c'est pour ça que je reprends le terme graphorée, mais je dis graphorée numérique, puisque c'est pas des courriers que je reçois, des courriers par voie postale, quoi. Je pense que, ouais, comme je disais, les stratégies de l'agresseuse, elles sont un peu les mêmes que, certainement les mêmes que l'agresseur homme, dans le sens où c'est l'intimidation, c'est la manipulation, et puis c'est souvent basé sur un ressenti en lien avec une jalousie pathologique, quoi. Et je pense que la parole, oui, elle a besoin d'être libérée, parce que il existe de l'emprise au sein des couples de femmes. Et j'ai entendu parler maintenant d'un MeToo lesbien qui a pris son essor à la suite du MeToo et du MeToo gay aussi. Les choses arrivent toujours plus tardivement du côté de l'homosexualité, mais elles arrivent. Et il y a énormément de personnes qui envoient des tweets et des témoignages, qui remplissent le formulaire pour témoigner anonymement des violences rencontrées au sein des couples lesbiens.
Ouais. Je crois que la première campagne dont j'ai entendu parler, en tout cas il y en a peut-être eu d'autres avant, mais c'est 2014, donc c'est assez récent quand même. Ouais.
Mais c'est utile pour ne serait-ce que comme témoignage, mais aussi en termes de prévention, quoi, des violences au sein des couples lesbiens. C'est important de partager, de faire circuler et de le condamner.
Il y a une échelle de la violence, enfin que j'avais trouvé vachement utile. Et moi, forcément, j'avais retrouvé quand même un certain nombre de signes. Moi, je suis partie avant les premiers coups. J'ai juste eu des objets qu'on volait. Et bon, voilà, insultes, machin. Enfin, insultes, pas trop, mais hurlements. Enfin, bref. Mais je trouve que c'est utile parce que, comme on est dans une histoire d'amour, enfin là, je parle de moi, mais qui est censée être belle, comme il y a eu des moments vraiment magnifiques, comme ça ne nous arrive pas à nous. J'ai vraiment été dans un espèce de déni total, quasiment jusqu'au bout, en fait. Et cette échelle, elle m'avait quand même un petit peu... Alors, j'avais quand même acheté un bouquin sur les manipulateurs. Elle avait bien compris que ça avait un rapport avec elle quand elle l'avait vu. J'avais lu la BD de Sophie Lambda, je ne sais pas si je l'ai lu avant ou après. Mais quand même, quasiment quasiment jusqu'au bout, j'étais dans un espèce de déni. Et en même temps, d'être capable de dire à mes copines, je crois que je me comporte comme une femme battue. Et en même temps, de ne pas être capable d'aller au bout de la réflexion et de partir, quoi.
Oui, je me rends dans tes propos. Mais est-ce que tes copines te disaient... qu'est-ce qu'elles te disaient quand tu leur disais « je crois que je me comporte comme une femme battue » ?
Eh bien, moi, j'ai des copines qui ont appris à faire de l'écoute bienveillante et à ne pas juger. Et du coup, la plupart, elles m'écoutaient et elles ne disaient rien. Il n'y en a qu'une qui m'a dit « mais casse-toi ». Et je la remercie parce qu'elle m'a vraiment aidée.
Mais souvent, il faut les remercier, ces gens, parce qu'ils secouent un peu le cocotier.
Mais en même temps, si elle me l'avait dit plus tôt, ça aurait servi à rien. Il y a aussi un moment où ça sert à... Enfin, en tout cas pour moi, où je ne l'aurais pas vraiment compris ou entendu. Ça m'a aidée, mais ce n'est pas suffisant. Quoi. Il faut être prête à entendre que ça ne va pas. Et que oui, on va perdre un truc chouette, mais ça, c'est plus chouette en fait. Ça fait longtemps que c'est plus chouette. Ouais. Peut-être dès le premier mois, moi, c'était plus chouette en fait.
Ouais, ouais, mes copines me disaient, mais t'étais complètement barrée. À un moment donné où j'étais passée en week-end sans elle, lors d'un break, je sais plus, mais t'étais pas bien. Limite, il y en avait une qui voulait me confisquer mon portable. Et après, j'entends ça, je me dis « Ah ouais, j'ai pu être barrée, moi, mais non !» Et oui, Ouais, elle, c'est vrai que certaines écoutaient et essayaient de voir le, de dire, d'essayer de comprendre la souffrance chez une, essayait de comprendre la souffrance qu'il y avait chez cette femme, puisque il y avait forcément forcément des dysfonctionnements en lien avec peut-être des anxiétés, quoi, pour être, enfin, c'est pas pour l'excuser, mais pour essayer de. Et puis d'autres, mais elle est complètement folle, plus cash, essayant de me protéger et puis de me dire de prendre des décisions. Et ouais, je pense que moi je les remercie, quoi, parce que elles ont été à l'écoute et puis de bons conseils. Quand il y a des moments où on n'a plus le choix, on a besoin de parler de toute façon. Et d'avoir.
Mais on se retrouve aussi très isolé. Du coup, c'est compliqué de parler vu qu'on est petit à petit coupé de l'entourage. Enfin, moi, je suis en train d'y réfléchir au moment où on se parle là. Qu'en fait, j'en ai pas parlé à grand monde parce que ben, je voyais moins de gens. Et notamment, je me souviens, une fois, j'en ai parlé à une copine longuement et elle m'avait vachement écoutée, vachement soutenue, redonné des billes pour être plus au clair. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça m'a redonné le courage d'y retourner. Ce qui était pas si mal, mais peut-être si elle m'avait dit en même temps, écoute, je trouve ça inquiétant. Tu vois, sans me dire quoi faire, mais juste dire son ressenti, c'est vu de ma fenêtre, c'est inquiétant. Est-ce que t'es sûre que... Je sais pas. Je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est ne surtout pas dire à l'autre ce qu'il ou elle doit faire.
Mais donner son ressenti.
Ouais.
Ouais, exactement. T'as raison. C'est là où je remercie parce que les filles qui ont pu me donner leur ressenti. Mais j'en ai pas parlé non plus énormément, contrairement à ce qu'elles disent, ce dont elles m'accusent. C'était un peu les mêmes personnes qui nous connaissaient. Mais je me souviens d'une fois, cette copine qui après était dans son... qui était la femme à abattre pour mon ex-compagne, m'avait dit « Hélène, ce n'est pas ça l'amour. C'est pas ça, non, ce n'est pas ça. » Je voulais pas l'entendre, mais je l'avais quand même un petit peu entendu. Mais ça cheminait. C'était évident, de toute façon, que c'était pas ça l'amour. La façon dont elle m'aboyait dessus, c'était pas ça, mais je voulais pas... Ouais. J'avais envie d'attendre le meilleur moment, les beaux moments. Entre les tempêtes, quoi.
Oui, m'attendre que ça redevienne beau. Et l'autre chose aussi, je sais pas si toi, t'as ressenti ça, mais moi, j'avais vachement d'empathie pour elle, en fait. Je la sentais dans une telle détresse pour qu'elle arrive à des extrémités pareilles. Et je me sentais capable de tenir bon.
Ouais.
Mais du coup, ben, je restais.
On dit que les personnes, enfin les proies des gens, voilà, tourmentés, manipulateurs, sont souvent très empathiques. Moi, je pense que je suis très empathique. Et effectivement, oui, des fois, je la sentais tourmentée et j'avais envie de l'aider. Peut-être que ouais, c'est la caractéristique, une de nos caractéristiques, quoi. Parce que bien d'autres auraient, ouais, voilà, auraient passé leur chemin. Et eux savent s'engouffrer dans notre faille.
En tout cas, moi, clairement, ça m'a pas aidé, hein, d'avoir envie de la soutenir et de l'aider.
Avec elle, j'arrivais pas à discuter. Parce que c'était une fille très logoréique qui, c'était difficile d'en placer une. Donc moi, il faut que je sois à l'aise pour... Et je trouvais pas les mots, les arguments. Alors je me souviens, elle prenait des post-it pour me dire qu'est-ce qui devait changer, ça. Puis j'ai retrouvé un post-it l'autre fois. Je me dis, mais c'est que du bon sens, mais... Enfin, je veux dire, c'est ce qu'elle me demande, ce qu'elle écrit sur le post-it, en fait, je suis d'accord avec elle. Alors, pourquoi ça ne marchait pas? C'était du style me voir deux week-ends par mois, ne voir sa famille qu'un week-end par mois. Voilà, des arrangements auxquels je pouvais adhérer. Et pourtant, quel que soit le nombre d'articles écrits sur les post-it, ça ne fonctionnait pas. Parce que si j'avais effectivement rempli la mission ce mois-là, j'avais regardé une fille, soi-disant, et pour la rendre jalouse ou je sais pas quoi, et puis ça partait en cacahuète, quoi. Donc je lui manquais de respect pour ci, pour ça.
Oui, ça pouvait jamais être bien, quoi.
Ça pouvait jamais être bien. C'est comme si elle avait besoin de trouver qu'est-ce qui allait pas pour se nourrir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver aujourd'hui pour que l'ascenseur émotionnel, pour moi, fonctionne, soit mieux. Donc c'était incessant, jamais fini, quoi. Inconfortable. On peut penser que certaines d'entre nous peuvent reproduire des comportements vécus dans l'enfance ou des rôles entérinés par l'éducation, des comportements un peu de coercition patriarcale, etc. Si je me réfère à mon histoire avec elle, je sais que voilà, son père était très colérique, très jaloux pour la partie défaut, quoi. Et qu'en même temps, elle avait un très fort attachement à ce père. Je pense que même s'il faisait pas son comportement, était pas dans les clous pour elle, puisque elle parlait de valeurs féministes, d'ouverture pour les femmes de tous horizons, de tous bords. En même temps, elle était paradoxalement très, très dominante, quoi. Faut pas croire que voilà que la violence n'existe pas dans la minorité que nous formons, nous.
Hélas. Et est-ce que pour toi, ce que j'ai compris, c'est que tu as porté plainte pour protéger d'autres femmes, pour témoigner, pour faire ta part. Est-ce que aussi, mais là il y a eu non-lieu, donc, mais est-ce que c'était un acte de reprise de pouvoir aussi ou de réparation ou pas du tout?
C'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Parce que oui, il y a de ça. C'est lui dire, m'affirmer, lui dire, lui montrer que j'étais courageuse. Et je l'ai fait aussi pour moi, en effet. Pour me reconstruire, mais je l'ai fait avec beaucoup de tristesse. Il y a eu de la colère, beaucoup de colère. J'étais dans un... Mais de la tristesse aussi, parce que... Une énorme déception, quoi. Mais, par exemple, ma fille me disait... Ça va t'entretenir dans cette histoire, passe à autre chose. Et j'ai senti que non, que moi, là, cette fois-ci, je voulais pas laisser passer. Parce que elle allait vraiment trop loin, cette fille, quoi. C'est du grand n'importe quoi, quoi. C'est une expression à elle, d'ailleurs, du grand n'importe quoi. je la reprends pour son compte. Ça n'a pas... J'aurais aimé que c'est vrai qu'elle soit sermonnée d'une façon ou d'une autre par le biais d'un petit rappel à la loi symbolique. Mais elle a tellement manipulé et j'ai redécouvert, hyper manipulatrice. ce qui fait que je la connais encore mieux finalement, mais et ça participe à la colère, à la déception. Mais parfois, oui, ça atténue la tristesse en fait. Peut-être que ça m'aide d'une certaine façon. À un moment donné, je me suis dit aussi que cette plainte m'a protégée de moi-même. Parce que je ne l'aurais pas déposée, je savais que j'étais très fragile et je la revoyais. Et je retournais dans ses bras, je pense, jusqu'à... avec les difficultés qui allaient continuer, parce que ça aurait été encore plus à ma charge cette nuit. Donc ça aurait alimenté d'autres fixations, parce que c'était sûr, quoi. Elle lâchait jamais un souvenir. Elle en rajoutait un autre et un autre. Et les fixations s'accumulaient. C'était ça, donc... voilà, ça, cette plainte m'a protégée. Moi-même, même si il ne s'est rien passé. Enfin, elle a quand même eu... Elle a été entendue... Ça l'a déstabilisée forcément aussi. Mais elle a voulu, voilà, elle m'a tendu la main quand même, malgré très maladroitement. Mais je savais, j'ai lu au-delà de la main tendue, peut-être sincère au moment ou à l'instant T, mais c'est tant pis pour l'amour en fait.
Ouais, je voulais revenir sur ce truc-là qui me semble vraiment symptomatique de « on ne peut jamais épuiser une situation ». En tout cas, moi, c'est ça que j'ai vécu, c'est-à-dire que quand il y a un reproche qui est fait, mais j'ai l'impression que c'est ça que tu dis aussi, tu peux t'excuser autant de fois que tu veux, c'est jamais fini, en fait. Ça t'est toujours resservi. Ouais, il n'y a pas de fin, quoi.
Il n'y a pas de fin. C'était sans cesse et... Et en fait, l'histoire a pris une très mauvaise tournure dès le départ, puisque voilà, elle a fait une fixation sur une des personnes, une femme très gentille, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'avais une histoire platonique avant elle, et donc je n'avais pas voulu lui dire. Et elle s'en était rendue compte, et du coup, elle a fixé, devenait haineux. Mais c'était donc des propos haineux par rapport à cette femme, mais c'était moi qui recevais les... Donc c'était moi qu'elle agressait, puisque c'était mon vécu. Voilà. Il y avait des personnes comme ça qu'elle citait, qui étaient dans ma vie, ou qui étaient passées dans ma vie, ou qui étaient encore dans ma vie. Famille, ex-compagne. Donc, elle se nourrissait de ça. C'était... Moi, je parlais peu, quoi, de... Je faisais pas de reproches sur... Voilà. J'entendais des choses de ces histoires. Des fois, j'avais pas à entendre. J'avais pas envie d'entendre. Mais bon. Et j'ai été en même temps très... J'ai dû l'entendre longtemps au début. Les 3 premiers mois sur d'autres fixations qui ne me concernaient pas encore. Des histoires avec sa famille. Des conflits. J'ai écouté. C'était même... ans. Et après, elle a fixé sur moi via des personnes interposées. Donc le procédé, en fait, il était là, mais comme il ne me concernait pas, j'étais, bah tant pis, c'est moi qu'elle aime. Elle taclait. Bon, c'est des cas d'école. Hein.
Ouais. Mais hélas, il y en a pas mal. Ça m'a rassurée, moi, de voir que quand même, n'importe qui pouvait être victime de quelqu'un comme ça, que c'était pas de ma faute. Mmh. Parce que longtemps, je me suis dit, oui, mais t'es trop fragile, t'es trop empathique, t'es trop ceci, t'es trop cela.
Bah, c'est peut-être des qualités, hein, d'être empathique.
Même si ça t'amène ça, merci bien. Et ce que j'ai entendu quand même, c'est que, bon, il y a peut-être des choses qui font que tu restes plus longtemps, mais ça peut arriver à n'importe qui, quoi.
Je sais pas, ça je sais pas.
Bah, j'espère. Enfin, je veux dire, j'espère que c'est pas de ma faute si j'ai, que j'ai pas attiré ça, quoi.
En tous les cas, pour moi, pour ce que je sais, c'est que c'est une personne qui peut séduire. Voilà, je la trouvais jolie. Elle sait qu'elle a son bagout, ses atouts, et qu'elle peut faire totalement illusion. et qu'elle n'est pas tout le temps comme ça aussi. Ça peut être une personne merveilleuse, qui a des qualités, qui est intentionnée. Donc ouais, je raconterais mon histoire à une personne qui ne la voit pas comme ça, qui est en séduction. Elle n'aurait pas envie de m'écouter. Elle a envie d'y aller. Et peut-être qu'elle ne sera pas comme ça. Je sais. Je pense que... Enfin, peu importe. Je suis pas Madame Soleil. Ma psy me dira, elle restera comme ça. Mais en tous les cas, là encore, je sais qu'il y a des personnes qui restent 10 ans, 15 ans avec des pervers narcissiques, pour reprendre ce terme à la mode, qui restent très longtemps, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Des femmes mariées avec le conjoint. Moi, pour ma part, je me dis, je suis restée 3 ans, c'est très court, je ne vivais pas avec elle et j'ai été très vite lucide. Parce que j'avais aussi des billes, quoi. Voilà, je me suis renseignée, j'ai un peu mon bagage professionnel, tout ça, qui a fait que je me suis regardée dans la situation et que des fois, je la prenais aussi comme terrain d'observation. Donc, ça, c'est pas terrible, c'est ça que j'ai peut-être à... Je n'ai pas à m'en féliciter. J'aurais pu faire plus court. Pourquoi j'ai voulu... Je sais que c'est... qu'il y a quelque chose à creuser là. Je savais que je fallait pas que je sois comme... fallait pas que je dise ça. J'évitais des sujets. Je la sentais quand je sentais qu'elle arrivait... qu'elle avait envie de me rentrer dedans. Je le sentais. J'arrivais à dévier. Mais c'est pas normal, quoi, de s'amuser, entre guillemets, de se complaire dans une situation comme ça. Ça va pas le faire 10 ans, quoi. Bon, ce que j'ai le tort... Enfin, quand j'ai acté la séparation, le grand tort que j'ai eu, c'est de l'avoir dit chez moi, à huis clos, et donc j'ai en sorte été pris en otage chez moi, battu, humilié, volé. Je savais, rationnellement, je savais qu'il fallait pas lui dire chez moi, parce qu'il y avait déjà des nuits infernales. Mais c'est parti comme ça. Hop, une bouffée de... C'est fini. C'était l'inconscient, enfin, qui parlait. La préparation avec... la préparation sur un an... Réussir enfin à dire définitivement stop. Et pourquoi je l'ai fait chez moi, ça, j'ai pas contrôlé. Ça a été catastrophique, quoi.
T'avais pas tellement... Soit tu partais, soit...
Mais j'avais pas prévu, en fait. J'avais pas prévu, mais je sentais. J'avais quand même les indices. 2 jours auparavant, il y avait les textos méchants, malveillants, suspicieux, à qui t'écris, pourquoi t'envoies ce smiley. Donc je savais que la crise venait, allait venir. Mais en fait, le terme, quand elle a pris « démerde-toi avec tes couillus », là, ça a été un déclic. Parce que elle agressait en fait mon gendre, à qui j'ai de l'estime, et c'était encore le symbole de ma vie passée, hétérosexuelle. Enfin, il y a eu un déclic, quoi. Couillus, c'est pas possible, quoi. On n'est pas dans un monde, dans une bulle de femmes. La vie, c'est pas ça, quoi. Tu respectes ma famille, en gros. Ouais. En plus, c'était un des seuls. Hein, enfin, il avait été sympathique. Il l'avait accueilli lors d'un voyage. Et elle était jamais contente, quoi. Jamais. Ce gars-là, au moins, il est gentil. Non, j'avais jamais ça. C'était que des méchants autour de moi. Elle attaquait ma famille.
Et là, tu viens de dire un truc que tu n'as pas dit, c'est que ça faisait 1 an que tu disais que tu allais partir.
Ouais, il y avait déjà eu des pauses. Mais en fait, j'allais partir, mais c'était, j'avais pas envie, moi. J'avais envie de rester avec elle. J'avais envie qu'on soit bien, qu'on s'aime. Mais c'était elle qui disait souvent, ne t'étonne pas si un jour j'en ai marre et que je sois plus heureuse avec une autre femme. Donc ça m'envoyait des bouffées de stress, parce que j'étais jalouse, mais dans le sens logique.
Elle te mettait en concurrence avec d'autres, quoi.
Effectivement, en concurrence. Ne t'étonne pas si tu continues à aller à tes soirées associatives sans me le demander, que je vive ma vie de mon côté et que je passe mes vacances avec une femme avec qui je coucherai ou pas. Donc j'avais c'est balèze, quoi. Et j'étais nourrie de ça. Donc elle me donnait les signaux qu'elle voulait me quitter, en fait. Mais en s'empressant d'essayer de rattraper le poisson. Des moments, j'ai dit, on fait des breaks, on fait un break. Enfin, c'était tellement hallucinant la rupture allait de soi, quoi, presque. Devait aller de soi, enfin, devait être arrivé, quoi.
Mais quelle histoire.
C'est une histoire. C'est une histoire que je porte, que j'ai en moi et qui est presque difficile à croire, quoi. C'est bien triste en même temps. Mais
pourquoi tu dis que c'est difficile à croire ?
C'est difficile à croire si je le raconte comme ça. Si je montre les écrits, là je pense que c'est hallucinant, quoi, pour celui.
Oui, c'est ça que tu veux dire, c'est tellement énorme et invraisemblable que c'est quasi incroyable, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, il y a des reproches qui sont nourris de faits, donc elle peut réellement me reprocher. Mais c'est surtout la construction malveillante et manipulatoire, quoi, c'est chaud, quoi. Parce que quand elle envoie un pic, elle se débrouille toujours pour se dédouaner et dire « comme tu me l'avais bien dit ». Et oui, effectivement, je lui ai donné ce détail-là, mais je pensais être en confiance. Et c'est vraiment instructif sur le fonctionnement du manipulateur, quoi. Mais bon, c'est du passé.
Moi, je me souviens, parmi les signes qui auraient dû m'alerter, enfin d'ailleurs qui m'ont alerté, mais c'est pas pour ça que j'ai agi, elle était déjà en procès avec d'autres gens, dont son ex est un procès. Enfin, elle était accusée de violence, en fait, par son ex. Et moi, je l'ai cru quand elle disait qu'elle avait jamais rien fait. Il a fallu que j'aie eu peur d'être frappée, ça arrivait 3-4 fois que j'ai vraiment peur qu'elle me frappe. Et même là encore, j'ai continué à douter qu'elle avait vraiment... Je me dis, peut-être qu'elle a fait pareil avec l'autre, elle a eu peur, mais... Mais voilà, je me dis, parmi les signes avant-coureurs, c'est voilà, à quel point l'autre a du monde dans son entourage, ou s'est isolé, s'est coupé, enfin...
Il y a des signes avant-coureurs, oui, de par leur discours. Quand elles racontent leur passé, et c'est pas elles les méchantes, bien sûr, mais après, tu recoupes, quoi. Effectivement, moi, elle me racontait des choses. Je ne vais pas les raconter ici, mais tiens, c'était bizarre. Donc, j'avais envie d'en savoir plus, mais je n'osais pas trop. Et je sais qu'une fois, j'avais entendu dire qu'elle pouvait tamponner, en gros, par des personnes de sa zone. Du coup, je lui avais redemandé, mais... En gros, un peu naïvement, mais t'étais pas violente. Et là, elle a été montée sur ses grands chevaux. Et elle avait piqué une colère toute la nuit. Comment tu peux m'accuser? Comment j'en ai marre? Mais en même temps, en déplaçant des lits. Et moi, un peu terrorisée. Très, très, très colérique, quoi.
Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Est-ce que tu vois des choses qui te sembleraient importantes de rajouter?
C'est vraiment un témoignage sur ce sujet-là. On le cible sur les violences possibles à travers mon témoignage. Mais
tu as des choses chouettes dans ta vie aussi.
Ouais, j'ai des choses chouettes. Et puis, je rencontre plein de personnes qui sont douces et aimantes et bienveillantes. Donc c'est une parenthèse, c'est un témoignage, quoi.
Oui, et ton histoire ne se réduit surtout
Mon
pas.
Mon histoire ne se réduit pas à ça. J'ai pensé les blessures, là. Et je crois que je vais beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je dépose ce témoignage. Mais j'ai pris de la hauteur. Je le dépose pour aider, et puis parce que je voulais aussi un peu décrire les faits, concrètement, profiter aussi de cette occasion. En sachant que voilà, je suis accusée d'être violente, insultante et violente physiquement, donc c'est un peu gros, quoi. Je m'en sers pas comme règlement de compte de ta proposition de témoignage, mais j'en ai profité aussi pour un peu poser les faits qui se sont vraiment déroulés cette nuit de terreur. Et parce que je pense qu'on retrouve aussi des traits de personnalité que d'autres pourront retrouver, que d'autres victimes peuvent retrouver, quoi, auprès de leur bourreau.
Mais je te remercie de rappeler qu'on n'est pas juste quelqu'un qui a vécu de la violence, on a une vie à côté. Enfin, je veux dire, on se réduit pas à ça, quoi. Mais je te remercie beaucoup.
De rien.
Et puis, plein de belles choses pour la suite.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingincomingout. À bientôt !